Vous écoutez RCF Charente, il est 15h. Du 31 mai au 4 juin, RCF Charente célèbre les 40 ans de la Radio Libre. Au programme, une semaine de souvenirs, d'actualités et d'avenir de la radio. Nous donnerons la parole à toutes celles et tous ceux qui ont fait, font et feront ce média multiple. Radio FM, web radio, radio scolaire, podcast, de la 16 à Zaïzaï, de Radio Attitude à RDC. Toutes les radios, fêtent les 40 ans de la radio sur RCF Charente du 31 mai au 4 juin. Vivez la Radio Libre. Et sur RCF Charente commence maintenant un nouveau et dernier volet d'émission consacré à la, aux 40 ans des radios libres. C'était en 1980-1982 avec plein d'invités autour de moi aujourd'hui pour parler de cet anniversaire et évoquer leurs souvenirs. Il y a notamment avec nous Bernard Lambert. Bonjour.
Bonjour Denis.
Bernard Lambert, qu'on a connu pour Radio Zigzag autrefois et d'autres, hein, puisque vous avez officié dans pas mal de radios.
Absolument, je crois qu'à l'époque les radios libres, j'ai dû tous les faire, de Radio Marguerite qui était plutôt de gauche à Renaissance FM qui était plutôt de droite.
À vos côtés, Jimmy, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes un actuel de la radio?
Oui, voire même un nouveau.
Oui, un nouveau, oui.
Je suis arrivé dans le paysage angoumoisin via Radio Adoc.
Oh, bah c'était déjà il y a un petit moment.
Ouais, il y a 4-5 ans.
Ouais. Mais avant, vous n'étiez pas dans les radios libres en Charente?
Non, du tout. Moi, j'arrive de la région parisienne et je suis arrivé en Charente pour les études.
D'accord. Bon, ben, vous nous parlerez de cette petite expérience radio. Avec nous également Philippe Dufresne. Bonjour.
Bonjour, Denis.
Alors, vous êtes un ancien de la radio quand même. Hein.
En fait, j'ai commencé en 1980, tout simplement.
Tout simplement, c'est tout. Pas plus tôt que ça dans les...
Pas plus tôt que ça. Et c'était en fait à Radio Amiens, dans la Somme.
D'accord. Et puis, vous êtes aujourd'hui à RDC.
RDC, tout à
voilà,
fait.
Mais ouais. Entre la Somme et la Charente, vous avez connu...
Il y a l'océan Atlantique et l'océan Pacifique.
Et vous nous parlerez de tout ça avec
tout
nous.
Tout à fait.
Nous a rejoint aussi Eric Potel, qui a pris goût à la chose mardi dernier, et qui revient, enfin non, c'était mercredi dernier, oui. Et qui revient pour parler de ses souvenirs de radio avec des vieux potes. Hein. Bonjour Eric
oui,
Potel.
Bonjour Denis, c'est vrai, monsieur Lambert, qu'on a fait, je crois, tous les deux, la plupart des radios à une certaine époque. J'ai fait Renaissance, j'ai fait Marguerite, Europe 2 aussi. Et donc voilà, on est autour, faut être honnête qu'on est avec des gens qu'on connaît depuis très longtemps.
Et ça se voit.
Et ça se voit parce que quand même, on est toujours frais comme des gardons. Et pour l'antenne, Denis, ces 40 ans de la radio, moi je voulais juste poser une question. Mais en 80, il n'y avait pas de radio libre, il n'y avait donc que des radios qui étaient piratées. Donc comment se fait-il qu'il y ait, et que des radios pirates, comment se fait-il qu'il y ait déjà des gens comme vous qui étaient en train de faire de la radio en 80?
Alors en fait, ça s'appelait Radio Amiens et la présidente, en fait, avait créé une radio et on y avait des studios.
Hein. En 80?
Ah oui, je peux vous assurer.
Non mais je vous assure, mais c'est parce que normalement l'antenne a été ouverte par les socialistes après la...
Oui, non,
mais
c'était là pour le coup les radios pirates. Ensuite,
oui,
il y a eu les
ça.
Radios libres.
Oui, c'est donc ça. On est sur l'émergence des la fin des pirates et le début des radios libres, hein, c'est ça.
Oui. Ok. Par contre, on faisait pas de pub. On n'avait pas le droit.
Bah oui. Mais de toute façon, il n'y avait même pas le droit d'émettre.
Et il n'y avait même pas le droit d'émettre. Donc, en fait, on émettait, voilà. Et on n'était pas payé, on était bénévole.
Oui, mais nous non plus.
Ouais, nous non plus. Ça, oui. Il y a longtemps. Nous a rejoint également sur ce plateau une voix.
Bonjour. Bonjour à tous. Excusez-moi, j'arrive un peu en retard, je pense.
C'est Marc Legras.
Je sais pas quoi vous dire.
Mettez le masque, Marc,
comme
vous entendez bien.
Je vais pouvoir me parler. Parce qu'il me fait des signes, mais.
Marc Legras, une voix de la radio, Marc Legras, on a entendu beaucoup sur Radio Marguerite, qu'on a entendu sur d'autres, sur Radio Accor et sur RCF aussi.
Voilà, effectivement, ma voix, mais maintenant tout le monde peut l'entendre, je ne l'ai plus. Depuis quelques années, mais en tout cas je suis avec plaisir avec vous pour évoquer ces moments-là.
Et nous, on est très contents aussi d'être avec toi.
Merci. Bonjour à tous. Autrefois, j'étais une basse profonde. Maintenant, la basse, elle est carrément barrée.
C'est l'adolescence,
c'est ça.
C'est ça.
Je ne peux plus faire des voix de pub.
Non, je ne peux plus faire de pub. Ouais. Tant mieux.
Tant mieux, oui.
Ouais, tant mieux, dit-il. Bref. Ben, je sais pas, par quelle radio on commence Marguerite
Alors, on peut peut-être faire par ordre chronologique. Oui. La toute première, c'était peut-être 102.10. Je parle sous ton contrôle, monsieur Spot.
Il y avait déjà la radio de la Charente Libre. Hein, je sais plus comment.
Fréquence 92.
Voilà, fréquence 92, merci. Et après, il y a eu tout de suite la radio de Patrick Mangou et des frères Courtois, puisque ça se situait dans la maison familiale de la famille Courtois, rappelle-toi.
Voilà, avec la table de mixage Jimmy, c'est pour toi, qui était posée dans la salle de bain sur une planche.
Et on l'avait vu sur le jardin, je me souviens. C'était assez cocasse.
Ensuite, ils ont déménagé rue de Beaulieu. On va essayer de faire assez rapide parce que je crois qu'on a 5 heures seulement. Ils ont déménagé rue de Beaulieu. Là, c'était une radio essentiellement étudiantine. Hein. Beaucoup de lycéens qui venaient faire des émissions. Moi, je faisais une émission de bande dessinée qui s'appelait Le Petit Menteur Illustré. Je cherchais un collègue. Et tout simplement, il y a des amateurs de bande dessinée qui habitaient dans le même immeuble. Et je lui dis, écoute bien, monte, on fait de la radio. Et hop, on a commencé à faire de la radio. Mmh. On écrivait sur un petit cahier d'écolier toutes nos chroniques. Et quand on voulait faire la météo, on ouvrait la fenêtre, on disait « Quel temps il fait ?»« Attends, je vais voir !» Et puis on ouvrait la fenêtre, et puis voilà, c'était...
On n'ouvrait pas souvent la fenêtre, parce que c'était rue de Beaulieu, je ne sais pas si tu te rappelles, et il y avait souvent des mobs à cause des lycéens, des lycées qu'il y avait derrière, et donc c'était un vrai problème, je me souviens, de ne pas pouvoir des fois aérer en été, parce que l'animateur sent fort, il faut le dire. Alors, au bout de deux heures d'émission, c'était pas toujours une partie de plaisir.
Toi aussi, tu es branché de bande dessinée, je crois savoir.
Mais à cette époque-là, non, je faisais Honte de choc, non, c'était plus tard, je faisais une autre émission, où on recevait des gens un peu frappadingues, et on faisait de la critique de journaux, de choses comme ça, je me souviens. C'était assez rigolo. Ouais,
c'est parce que, avec Krasno.
Voilà, la langue était très très libre. C'est ce qu'on disait le jour avec Richard Tallet. Cette année-là, c'est génial parce qu'on peut tout dire. Ouais, Marc, je ne sais pas, tu as vu ça toi aussi.
Tout à fait. C'était une époque merveilleuse où justement, comme on revient à cette histoire de publicité aussi qui était différente, on n'est pas compte du tout des mêmes choses. C'est-à-dire qu'on se sentait effectivement tout à fait autorisé à faire et à dire en toute liberté ce que l'on voulait, quoi.
Passer la horde, passer Gogol premier, passer des choses comme
voilà,
ça.
Voilà, absolument. Mmh. Se permettre des choses qu'effectivement, maintenant, c'est vrai, c'est, je fais le vieux con, on dit j'arrive.
Tu fais le vieux con.
Ben, je fais le vieux con. Mais c'est-à-dire que les jeunes sont habitués à écouter de la très bonne musique sur presque toutes les radios. Mmh. À notre époque, ils voulaient vraiment qu'il y ait ces radios-là pour pouvoir enfin écouter vraiment de la musique de notre âge, ou en tout cas de la bonne musique contemporaine de cette époque-là, où elle ne passait jamais sur les radios
périphériques.
C'est ce qu'on disait l'autre jour avec Richard Tallet, Denis Charbonnier, à savoir qu'il y a une libéralisation du ton qui va après donc s'écouler vers les mainstream, les grandes radios qui seront après, qui vont venir de là, et en même temps, une libéralisation de la musique. Moi, je me souviens qu'on était tous là, les gens qui ont dépassé la cinquantaine, on ne pouvait jamais écouter, par Bernard Lenoir et Patrice Blanc-Francard sur France Inter, il n'y avait rien pour écouter.
Il n'y avait pas grand-chose.
Il y avait du rock essentiellement, c'était la contre-culture, c'était le rock à cette époque-là. Mmh. Je veux dire, pour écouter du Led Zeppelin ou des Pink Floyd ou je ne sais pas ce qu'on voulait, ou Iggy Pop, on ne les voyait jamais.
C'est vrai.
Et Marc a totalement raison qu'il y a eu l'ouverture de la musique et l'ouverture du ton général. On s'est permis de dire ce qu'on voulait. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré un an, deux ans, hein, pas plus.
Un
du coup,
plus
après, après, il a fallu se trouver des financements, puisque la Haute Autorité est intervenue, vous en rappelez, à partir de 82, je crois.
Le CSA.
Non, c'était à l'époque, c'était la Haute Autorité.
La Haute Autorité, oui, c'est vrai.
C'est ça, c'était la première.
CSA, c'est venu après.
C'est venu après.
Oui, ouais, c'est vrai.
Et ils ont
commencé
à mettre de l'ordre, distribuer des fréquences.
C'est ça.
Et interdiction de la pub dont vous parliez tout à l'heure, Philippe Dufresne.
D'ailleurs, tout à fait.
Vas-y.
On va continuer le tour de table de nos invités, alors, parce qu'il y en a qui sont au téléphone, qu'on ne voit pas ici. Et il y a Pascal Baudron qui est avec nous. Bonjour, Pascal.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour, Pascal. C'est Marc.
Bonjour.
Bonjour Pascal,
bonjour,
c'est Bernard.
Bonjour Pascal, c'est Eric.
Bonjour Pascal, c'est Thierry.
Bonjour, c'est Jimmy.
Toi aussi, t'as un problème avec l'alcool?
Eh bien, voilà, dans l'eau, il y en a quelques-uns que je connais.
Une voix de la radio ici en Charente. Hein. Vous étiez journaliste à Europe 2 Charente, à cette époque bénie dont on parle il y a 40 ans.
Ben, oui, effectivement. Donc j'ai connu la radio à partir de 1982. Donc effectivement, ça remonte un petit peu. C'était la grande époque des radios dites libres. Hein. Donc c'est vrai que c'était, j'entendais un peu ce que disaient les invités autour de la table. Effectivement, c'était réellement une autre époque. Après, effectivement, Les radios se sont structurées, se sont un peu densifiées dans leur contenu et dans leur programme. Et effectivement, j'ai été journaliste sur Europe 2 en Charente pendant une bonne quinzaine d'années, voire un peu plus, entre le sport et les infos gênées. Effectivement, j'ai terminé en fin 2004. Donc, vous voyez, je suis resté pas mal de temps sur l'antenne, oui, effectivement.
Je précise pour les auditeurs que quand Pascal parle d'infos gênées, ce ne sont pas d'infos qu'il ne faut pas dire, ce sont des infos générales.
Oui, oui, pardonnez-moi, c'était ça. C'était effectivement les infos générales. On présentait à l'époque des infos qui prenaient toutes les facettes de l'actualité, la politique, l'économie, etc., le social et le sport aussi, bien sûr. Voilà.
Mm-hmm. Oui, Pascal, vous étiez un fan de sport quand même. Je me rappelle, sur Radio Europe 2, vous étiez quand même un des spécialistes, non ?
Oui, alors, on avait effectivement les deux étiquettes, outre la semaine où on faisait donc l'info généraliste, voilà, pour être très précis. Le week-end, on faisait effectivement aussi, à l'époque, il n'y avait pas, par exemple, de France Bleu, qui sont des vrais spécialistes dans le sport en direct, et on était un peu le pendant, puisqu'on faisait, je me rappelle, pas mal d'émissions en direct le samedi soir, avec les commentaires à l'époque de l'ASAC, du SCA rugby, du SCA hand, et de tout un tas d'équipes sportives qui ont fait vibrer les amateurs de sport en Charente. On faisait donc les directs le samedi soir et ensuite le dimanche soir, enfin en fin d'après-midi, avec mes vieux compères Daniel Delino et Eric Devenex. On a pu présenter des émissions de résultats pendant là aussi de très très nombreuses années, avant qu'effectivement cela nous soit quelque part un peu interdit par le fait de passer sous le joug de Lagardère, quand on a été, c'était des histoires de groupe, hein. On appartenait à l'époque au groupe Sud-Ouest, et après on est passé sous le joug de l'équipe Lagardère, et on nous a dit bah non, ça rentre plus du tout dans les créneaux, et on était devenu vraiment une radio comme le sont toutes les Europe 2 en France, quoi.
Lagardère, c'était le Bolloré de l'époque, un peu, peut-être, non ?
Ouais, Lagardère, c'était, et c'est toujours, d'ailleurs, c'est particulier, on va dire, voilà.
Lagardère bon. Est venu à toi.
Oui,
oui. Oui, on peut voir ça comme ça, oui.
Ouais, il fallait que
voilà,
tu le fasses.
Les plus jeunes ne comprendront pas, oui, c'est clair.
Pascal Baudron, alors je ne sais pas si vous avez tout votre temps, parce que vous travaillez, là, vous n'êtes pas comme nous à la radio, à écouter le poste, hein. Mais... Comment ?
J'ai le temps, il n'y a aucun problème.
D'accord, parce qu'on pourrait parler de souvenirs, de la place de ces radios locales par rapport aux grands médias. Vous étiez vous-même sur Europe 2, en lien souvent avec Europe 1 pour relayer l'information, parce que souvent c'est les localiers qui amènent l'information dans les grands médias locaux, hein, dans les grands médias nationaux.
Denis, j'ai même une anecdote pour
alors je voulais y venir, par rapport à François Mitterrand, je suppose.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Racontez-nous.
Eh ben, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, à l'époque, Europe 1 faisait appel aux structures locales. Hein, alors, ça se fait même encore aujourd'hui, hein, pour TF1 qui joue, prend des gens en local. Donc, nous, en étant journaliste à Europe 2, moi, j'étais correspondant pour Europe 1. Et à ce titre, je faisais alors, tout un tas de choses. Ça pouvait être du sport, puisque j'allais régulièrement commenter les matchs de Poitiers, pour la petite histoire, pour le multiplex. Bon, bref, et pour l'info générale. J'étais aussi le correspondant. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, je suis alerté, comme tout correspondant, par la rédac d'Europe 1, qui m'appelle, qui dit « François Mitterrand est mort, va à Jarnac, sa ville de naissance, pour faire un truc sur place, alors, ce qu'on appelle un micro-trottoir, voir des gens, aller voir le maire, etc. » Bon, ok, bon, je vais sur place. Et le maire de l'époque, Maurice Boiron, en l'occurrence, me dit « on a appris le truc et tout, ces obsèques auront lieu ici à Jarnac. » Ah bon ? C'est étonnant, puisque donc il était plus du tout impliqué dans la vie locale, si ce n'est qu'il était venu un jour inaugurer son musée. Pour le reste, il n'était pas du tout ni élu localement, il n'avait pas fait sa carrière ici en Charente. Et donc, c'était une vraie surprise, donc j'appelle la rédac, il s'est enterré ici, la rédac très surprise, non, c'est pas possible, je dis si, voilà. Et donc, effectivement, sur le coup, nous étions la première, nous étions le premier média national présent sur place. Pendant une journée, j'étais tout seul, donc bah, ça c'était tout à fait bien. Le lendemain, les médias nationaux sont arrivés. Deux jours après, les médias internationaux sont arrivés. Et après, c'était la foire d'Empogne, il y en avait de partout. Et après, je me suis trouvé à faire ce qui est un de mes pires souvenirs, d'ailleurs, n'ayons pas peur de le dire, un de mes pires souvenirs radiophoniques. Je me suis trouvé à faire l'arrivée du corps à la base aérienne, enfin l'arrivée de la dépouille sur la base aérienne à Cognac. Donc c'était, ça fonctionnait sous le thème de pôle. C'était un pool radio, donc il y avait un pool photographe, un pool radio. Et moi, j'étais dans ce pool radio au nom d'Europe 1. Et en fait, j'étais très très loin de la du truc. Bon, déjà commenter ce genre de truc, c'était pas non plus hyper palpitant, mais j'étais très loin, je voyais absolument rien, je voyais pas les gens, ils voyaient beaucoup mieux que moi à la télé, et au final, je faisais l'ouverture du flash de 10 heures avec ça, et j'avais rien à dire. C'était juste infernal, quoi, voilà, c'était juste, c'était nul.
Le grand, voilà. Moment de silence, le grand moment de silence, solitude. Ouais, de solitude, ouais, vous avez tous connu ça, j'imagine, en radio.
Ils n'en ont pas, mais là, sur le coup, c'est vrai que c'était... C'est pas très agréable, voilà.
Thierry Defresne.
Oui.
Un moment de solitude.
Ah, ça m'est arrivé, ouais. Ouais, ouais.
Et racontez.
Ce qu'on appelle un blanc au théâtre. Voilà.
Des exemples.
En fait, on interviewait une grande chanteuse qui s'appelle Karen Cheryl. Et à un moment donné, elle m'a posé une question. Je suis resté... Quand je sais plus la question, hein, je me rappelle plus évidemment, ça fait longtemps. Et je suis resté baba, pas au rhum, mais baba quand même. Et donc finalement, oui, on connaît tous des blancs. Oui, comme bah on a tous aussi des choses qui nous arrivent, hein, évidemment, bien sûr.
Bien sûr. Ouais.
Et c'est vrai que bon, moi par exemple, mon histoire elle est très atypique. Elle a pas commencé par la radio, elle a commencé par la discothèque.
Oui, il y a beaucoup aussi.
Beaucoup.
Par la discothèque,
bien sûr,
oui,
beaucoup, ouais. Ouais. Donc voilà.
Ben, un grand moment aussi. Tiens, on va essayer de se rappeler chacun des anecdotes.
Et... Pascal Baudron, il m'entend. Pascal, tu m'entends?
Oui, oui, j'entends.
Ouais, c'est Eric Potel, Spot, si tu préfères.
C'est comme chez vous.
Oui, Eric.
Tu te rappelles que tu t'es fait tirer dessus par des chasseurs un jour aussi?
Ah oui, mais là, c'était pas du tout dans le cadre de mes activités journalistiques.
C'est vrai, mais t'avais la voiture de la radio, et donc c'était remonté, et t'en avais fait une anecdote quand même. Est-ce que tu peux raconter un peu le contexte?
Attends, je me rappelle pas du tout de cette histoire, Eric.
Tu faisais ton jogging sur les bords de la Charente, et puis
il
y avait des chasseurs qui ne respectaient pas les distances légales de protection de l'habitat, des piétons et de la coulée verte, et tu as, en bon journaliste citoyen, tu t'es dirigé vers eux pour leur expliquer la loi. Et tu as été reçu à coups de gros sel dans les fesses.
Ah non, alors ça, effectivement, je me rappelle très bien de l'anecdote.
Voilà.
J'avais pas la voiture, en fait. J'étais à pied, hein, carrément.
Oui, mais c'est qu'après, ils ont vu ta voiture, je crois, la voiture de...
Ça, non, je pense pas. Non. Mais ce qui se passe, effectivement, je courais le long de la coulée verte, effectivement, le long de la Charente, et j'ai des chasseurs qui sont là, il y a des maisons juste à côté, et je leur explique qu'ils ont quand même pas vraiment à chasser à cet endroit-là. Ce qui me paraissait une évidence, et les gars étaient plutôt exécrables. Et effectivement, je me suis dit, ouais, je fais pas le raccourci, même si ce ne sont pas a priori mes amis, mais bon, peu importe, j'en connais hein, malgré tout. Bon, donc voilà. Ils ont commencé à m'invectiver, à me traiter de tous les noms. Bon, j'ai bien compris que c'était pas utile d'entamer la discussion avec eux, donc je suis parti. Et effectivement, bon, je suis pas sûr qu'ils m'aient visé, mais ils ont bien tiré à côté de moi. Alors, je suis pas sûr que c'était du gros sel, hein.
Oui,
ont tiré dans les feuillages à côté de moi. Donc, effectivement, j'ai peut-être bien battu mon record sur les 75 mètres, là, parce que, pour le coup, j'ai réellement accéléré. J'ai appelé dans la foulée la gendarmerie, hein, mais bon, on pouvait rien faire. Il y avait rien à faire. Mais, effectivement, c'était quand même assez... Bon, j'espère que ça se reproduit plus, parce que je crois que la coulée verte est maintenant quand même particulièrement fréquentée par les gens à pied, à vélo, etc. Et ce serait dommage de se priver d'un tel joyau en pleine ville pour des énergumènes qui ont toute la nature pour aller chasser.
Les chasseurs ont fatalement changé eux aussi.
Je l'espère.
Cédric, puisque tu rappelles des anecdotes, je vais peut-être t'en rappeler une. Je crois qu'une fois, le Front National, qui s'appelait toujours comme ça à l'époque, est venu sonner à la porte de la radio parce que tu leur avais fait aussi une remarque. Et cette fois-ci, tu étais avec la voiture siglée Radio Marguerite Europe 2.
J'étais même en reportage, oui, je me souviens très bien de ça. Et ils s'amusaient à l'époque à coller les étiquettes, les stickers, on dit maintenant, du Front National sur les panneaux de circulation. Donc les stops, les choses comme ça. Et donc, moi, en bon journaliste citoyen aussi, m'arrête pour leur dire, écoutez, vous avez tout un tas d'autres endroits légaux pour faire votre travail, mais vous ne mettez pas ça sur du mobilier. Bon, ce n'est pas du mobilier urbain, c'est quand même des panneaux d'indicateurs, etc. Et voilà, le ton a monté, évidemment. Une chose en a entraîné une autre. Et comme j'avais une voiture marquée Europe 2, ils sont venus à la radio se plaindre. Et c'est Thierry Vildary qui les a reçus. Je me souviens, et voilà, vous pouvez pas voir la tête de mes compères autour de la table, mais ça s'était passé un petit peu froidement, parce qu'à l'époque, ces gens-là n'avaient pas, comment dirais-je,
l'audience. Ils n'avaient pas d'humour, alors que maintenant, oui.
Et ça, ils n'ont toujours pas, d'ailleurs, mais ils n'avaient pas l'audience qu'on leur prête à l'heure actuelle.
Oui, voilà, c'est parce ça. Qu'ils ont beaucoup d'humour qu'on parle d'eux.
D'ailleurs.
Et c'était le papa qui était là, c'est le borgne, et donc pas sa fille, et donc c'est vrai que c'était un parti qui, à l'époque, montait. Et donc, il était sur des fondamentaux qui étaient beaucoup plus, comment dirais-je, rigide et moins souriant qu'ils le veulent afficher.
Ah, tout à fait. J'ai encore un souvenir de Radio Bernard.
Alors j'en ai un. Radio Marguerite n'était pas encore devenue Europe 2. C'était la radio portée par le Crédit Agricole, la Charente Libre, etc. Une radio très sérieuse. Il y avait des gens de journalistes à Libé qui étaient venus nous aider. Gilles Marinet qui ensuite a fini à France 2. Enfin fini, a continué sa carrière à France 2. Voilà, donc très crédible. Moi, je faisais une chronique bande dessinée sur cette antenne. Ensuite, j'ai retrempé quelques concerts. Enfin, j'étais un peu pigiste sur cette antenne. Eric, tu faisais aussi des émissions. Et un jour, je ne sais pas ce qui se passe, il y a 2 heures libres d'antenne. Je crois que c'était un week-end. Ouais. On nous demande d'animer ces 2 heures.
C'est un vendredi soir, si je me souviens.
Vendredi soir, oui. Nous, on décide de s'envoyer la balle. Je choisis un disque, tu choisis un disque et on en parle. Et à un moment donné, on se dit, tiens, on s'ennuie un petit peu. Que pourrait-on faire? On décide de faire croire à la mort de Serge Gainsbourg.
Alors, j'avais rédigé un faux communiqué de l'AFP, parce qu'en tant que journaliste, on avait l'habitude quand même, on savait comment ça s'écrivait. Et tu me donnes la parole et je me mets à débiter mon truc.
Et on prend un ton tout de suite très mortifère, normal.
Ouais,
on
grave.
Beaucoup, la voix grave, comme Marc Legras.
À l'époque.
On fait croire à la mort de Serge Gainsbourg, on bouleverse totalement la playlist de l'émission et on passe uniquement du Gainsbourg en prenant des auditeurs au téléphone. Sauf que...
C'était crédible, on avait fait un truc crédible avec des heures d'admission à l'hôpital, le nom d'une maladie, je me souviens, je l'avais rédigé le truc.
Ce qui est tout à fait, enfin, vu son état, déjà.
Ouais. Pourquoi
sauf
pas
que, sauf que... C'était quoi, 2-3 ans avant qu'il décède, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Sauf que la rédac de la Charente Libre écoutait évidemment la radio dans laquelle ils avaient mis Joël Chimy catastrophé.
Oh là là.
Dans lequel ils avaient mis des billes.
Ah oui.
Ils avaient commencé à bouleverser le chemin de fer du journal.
Et alors, c'est pire que ça, parce qu'on va raconter la suite, mais à Bordeaux, ils ont recueilli l'info pensant qu'elle venait de la Charente Libre. Et comme la Charente Libre, c'était le groupe Sud-Ouest, donc il y avait une forme de crédibilité dans tout cela. Et l'info a commencé à se répandre en Aquitaine. Voilà.
Et donc, bien évidemment, alors c'était le vendredi, donc tous nos supérieurs, parce qu'il y avait déjà des supérieurs, ne travaillaient pas le week-end, sauf les bénévoles qui faisaient l'antenne bénévolement.
Complètement.
Dès le lundi matin, on s'est retrouvés dans le bureau du directeur,
du chef
on s'est fait un peu en guirlandais.
Ah, on s'est fait remonter les bretelles, oui, je me souviens quand même d'un moment un peu houleux, où moi j'ai dit...
J'aime bien ce terme, se faire remonter les bretelles.
C'est d'époque, j'essaye de parler comme les jeunes.
Voilà, comme à l'époque.
Comme à l'époque, et... c'était Gilles Marinet et je me souviens de l'argument que j'ai eu, on était des gamins quand même, je lui ai dit c'est la preuve au moins qu'on est crédible.
C'est
ce qui ne l'a pas vraiment, ce qui ne l'a pas vraiment amusé, je le comprends maintenant, mais du coup effectivement ça avait, ils avaient été obligés de faire un démenti en disant que c'était une fausse info, etc.
Il y a une fake news, ça montre quand même déjà l'intérêt, la pertinence des radios locales que tout le monde écoutait et comment, comment l'auditeur lui faisait confiance, ce qui était dit à la radio, ça pouvait pas être un mensonge, quoi. C'était forcément vrai.
Oui, puis à Europe, ben. Europe 2, il fallait dire quand même qu'il y avait une belle équipe de journalistes très compétents. Je me souviens quand même, on parlait de Thierry Vildary, on a eu Pascal Baudron, il y avait Agnès Longueville, il y avait Frédéric, enfin non, il y avait Christophe Hénard. Bon, c'était une vraie rédaction. Il y a eu combien, jusqu'à 6 journalistes. Marc, je me tourne vers toi.
Ben, il y a eu 5 journalistes à une époque.
Ah, voilà, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est venu aux oreilles de l'intéressé?
Je n'ai jamais su. Ça l'aurait amusé, certainement.
Je pense que ça l'aurait amusé.
Je pense pas, ouais, que ça aurait dérangé Gainsbourg qu'on fasse sa mort avant qu'il soit mort.
Non.
je ne sais pas si vous en avez encore parlé, mais puisqu'on évoque aussi ce côté qui était déjà assez professionnel, c'est-à-dire peut-être qui même a régressé un peu quand on est devenu des faiseurs de pub, on va dire.
C'est ça.
Plus qu'hélas des véritables zones de radio.
Quand les hommes en gris sont arrivés, oui, les commerciaux.
Oui, c'est ça, exactement, quand les commerciaux sont arrivés. Eh bien, avant, on avait une véritable notoriété. C'est-à-dire que on avait un échange avec le public, avec les auditeurs, qui était très fort. Qui était vraiment très très fort. On parle d'anecdotes, c'est amusant. Bon, évidemment, je dis, bon, c'est sympa, mais c'était pas à faire tous les soirs. Mais par exemple, je me suis vu un soir, pour arriver faire une émission, sur le parking, il y avait des mecs qui étaient là, qui avaient des boutanges, des trucs, des machins, parce qu'ils voulaient absolument, non seulement que je leur signe des autographes, mais que je boive le coup avec eux. Alors, ce sont des choses qu'on n'imagine pas à cette époque-là, mais les gens étaient très, très, très demandeurs. Je me souviens aussi que je faisais une émission qui faisait appel aux auditeurs. Là, il n'y avait pas besoin de ramer, hein. Les auditeurs téléphonaient tout de suite.
C'est ça.
Parlaient tout de suite.
Des vrais coups de fil, hein, pas des coups de fil bidonnés.
Non, pas des coups de fil bidonnés. Il y avait un vrai intérêt pour ce phénomène qu'était la radio et cette impression pour le public de se dire, ça y est, on a quelqu'un qui nous écoute. Et non seulement qui nous écoute, mais avec qui on peut parler.
Thierry, Radio RDC, quand même une radio qui aujourd'hui a encore des auditeurs qui l'appellent, hein, beaucoup.
Oui, alors je peux raconter une anecdote avant.
Oui, oui.
En fait, je commence par... j'ai 18 ans. On est en 1980, j'ai 18 ans. J'arrive dans une boîte qui s'appelle Le Bœuf sur le Toit, ne rigolez pas. Voilà, j'arrive dans une boîte de nuit qui s'appelle Le Bœuf sur le Toit et je suis disque jockey. Le patron est très content de mes prestations, donc pas de problème. Il me dit, bah écoute Thierry, allez, vas-y, hop, on y va. Et la semaine d'après, qu'est-ce que je vois arriver? Un mec à ma console, voilà, où j'étais, et il me dit, ça te dirait de faire de la radio? Bah, je lui dis, ouais, pourquoi pas. Et il me dit, bah écoute, il me dit, voilà, il y a Radio Amiens. Bah, je lui dis, ouais, ok, Radio Amiens, pas de problème. Alors, je fais Radio Amiens. Donc, je vais me présenter une directrice. Et la directrice me dit, vous savez, voilà, je vais vous prendre comme bénévole, mais je vais vous payer en sous de table. Bah oui. À l'époque, évidemment, on n'était pas, il y avait pas de fiche de paye, il y avait pas de tout ça.
Dans les boîtes, les tables à son basse.
Et les tables à son basse, voilà, c'est ça. Et donc, elle me dit, je vous paye en dessous de table. Bon, bah, pas de problème. Donc je suis payé en dessous de table, donc je suis content quand même à 18 ans, j'étais pas mal quand même, disque jockey, animateur radio, ouais, c'était sympa. C'est... Et j'étais sorti un peu de ma timidité, un peu de ma... Donc voilà, et donc au final, ça se passe très bien. Après, je vais vous expliquer le reste, hein, ça va être très rapide. En fait, ce qui se passe, c'est que je remonte sur Paris. Et là, je tombe dans une boîte de nuit et pareil, rebolote, disque jockey, machin. Et là, il y a un mec qui me dit, tiens, il y a Énergie qui recherche des mecs. Il me dit, si tu veux, tu vas te présenter au Midnight Express qui se trouve à La Défense. C'est une grosse boîte de nuit, 3500 personnes. Et il me dit, tu vas voir le disque jockey, il est super sympa. Et vous savez qui était le disque jockey?
Ben, vous allez nous dire.
Marc Scalia. Voilà. Marc Scalia est donc le disque jockey du Midnight Express à La Défense. Il me prend comme light jockey. Et là, il me dit, je vais te présenter un super mec. Tu vas voir, il est génial. Jean-Paul Baudecroux. Jean-Paul Baudecroux, qui est donc le directeur de Énergie. Et puis, il me présente. Putain, j'avais 19 ans, je me dis, j'étais un petit louvio, je savais rien faire, je connaissais rien. Et ils m'ont tout appris, entre Marc Scalia, Jean-Paul Baudecrou et Mitsou, ils m'ont tout appris. Et j'avais déjà appris à Radio Amiens aussi, parce qu'il y avait un super technicien, le mec c'était un vrai pro, quoi. Et donc, si vous voulez, voilà comment mon histoire. Et puis après, bah, d'énergie, j'ai été sur Skyrock, de Skyrock, j'ai été sur Nostalgie, et puis malheureusement, j'ai été obligé, dans l'obligation, de venir en Charente par rapport à ma femme et à ma belle-mère.
Bon, on va pas rentrer dans les détails.
Non, on va pas rentrer dans les détails. Mais j'ai été obligé j'ai été dans l'obligation de venir en Charente. Et c'est là que je suis tombé sur RDC. Et la première personne que j'ai connue, c'était Bruno. Bruno qui se trouve à RDC, donc voilà.
Bruno
Jeunet, ouais, tout à fait. Et il m'a dit, bah écoute, si tu veux, pas de problème. Et puis j'ai commencé, puis le vendredi soir, en fait, je fais une émission qui s'appelle le Jazz Disco Funk, toute la funk des années 80, 70, 80, tout le disco. Et c'est vrai qu'RDC, c'est une radio assez sympathique, où il y a pas mal d'auditeurs, d'auditrices. Alors, c'est d'un certain âge. Moi, je sais qu'il y a des petites mamies ou des petits papis qui m'ont appelé et qui m'ont dit, dites donc, votre musique, elle est trop américaine. Alors j'ai dit, mais vous inquiétez pas, je vais passer des Français, vous inquiétez pas, il y a plein de Français qui sont là. Et bon, c'est vrai que j'arrive quand même à jauger un petit peu et puis à faire un petit peu l'émission.
Mais en tout cas, c'est une des rares radios qui conserve ce lien avec son auditeur.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et je vais rejoindre ce que disait Marc. C'est vrai que dans le temps, on avait un vrai auditoire. On avait vraiment, ça venait de partout, ça arrivait de partout, et aujourd'hui c'est moins fluide, c'est plus
peut-être moins de fidélité,
voilà,
peut-être moins de fidélité à une antenne.
Tout à fait.
Eric.
Bernard, je ne sais pas si tu te rappelles, parce que tu as travaillé au Rube 2 toi aussi un certain temps, le nombre de gens qui défilaient par jour, et toi Marc aussi, à la radio. C'est ça, parce que on ne voit plus ça. Non. Les gens venaient directement, donner des CV, aller venir chercher des places de concert qu'on faisait gagner, des places de cinéma.
C'est vrai.
Et la nuit, moi j'ai fait beaucoup de nuits, parce que bon, c'est vrai qu'à l'âge qu'on avait, ça ne nous dérangeait pas de finir une émission à 3h du matin, même c'était plutôt sympa. Et le nombre de fois, on a été obligé de se barricader, parce qu'il y avait des clodos, des SDF, des gens qui venaient, qui tapaient à la porte. Des portes vitrées en bas, et même dans le studio avec les portes fermées, on entendait des bruits. Enfin, toi, Bernard, Marc, vous vous rappelez de ça quand même, que des fois, on a même hésité à sortir, parce qu'il y avait deux mecs à Vinet qui me disaient, ouais, Tom, fais-moi rentrer. Enfin, c'était assez chaud parfois, mais comme vous dites, tous autour de cette table, il n'y a plus cette ambiance. Hein. Et puis l'implication dans le tissu local aussi.
Pascal veut intervenir, Pascal Baudron.
Oui, pour corroborer ce que vous dites un petit peu, ce que j'entends, effectivement, donc je suis maintenant, peut-être vous l'avez dit, je sais pas, je suis à Pau, je suis venu ici pour gérer effectivement des radios, je n'y suis plus aujourd'hui, mais j'ai quand même gardé des relations avec les gens, et effectivement, j'ai pu échanger, tiens, il n'y a pas très longtemps encore, avec un animateur, aujourd'hui une radio avec des locaux splendides, avec des installations exceptionnel, puisque donc les radios aujourd'hui sont devenues effectivement très professionnelles, si j'ose dire. Aujourd'hui, une radio, il y a une personne dans tous les locaux, une personne à la fois. Il n'y a plus de personne dans les radios, il n'y a plus personne.
C'est vrai.
Il n'y a plus une seule personne. Donc, de toute manière, c'est devenu aseptisé. Alors, on ne va pas revenir sur la multiplication des canaux d'information aujourd'hui avec le net, avec les web radios et tout ça, qui effectivement font en sorte que plus on multiplie les sources, moins on a effectivement cette densité qu'on pouvait connaître et qu'on a connue tous autant qu'on est quand on était dans les années 80 sur nos radios. Mais indépendamment de ça, le système fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne dans les radios. Je vous le dis, il y a fort peu de temps, je discutais avec l'animateur qui était un jeune qui a 22 ans et qui arrivait et qui était surpris parce que il fait son émission. Alors, quelle passion vous voulez mettre quand vous êtes tout seul dans le studio, que vous voyez personne pendant 4 heures, il fait 4 heures d'émission, il voit personne pendant 4 heures. Puisque les journalistes sont là le matin, son émission allait l'après-midi, et voilà, pendant 4 heures, il est tout seul dans son studio.
C'est
et
vrai.
Il ne voit jamais personne, avec des interventions qui plus est sont très... même si c'est un programme, comme on le qualifie pour le CSA, d'intérêt local, elles sont pour autant très aseptisées, puisque ce qu'il doit dire, eh ben, c'est dans le contenu, dans la charte de la radio. Bref, il n'y a plus beaucoup de... Il y a évidemment plus du tout de côté local et de côté convivial et de côté chaleureux et de côté indépendant, quoi, en fait. Et
donc, même si normalement en radio on se voit, je vais quand même te poser la question.
Mais j'ai beaucoup de plaisir à échanger, à saluer Bernard et Marc.
Merci,
et Eric,
Pascal.
Qui sont aussi des Merci, vieux Pascal. Copains que j'ai perdu de vue malheureusement, mais
ben oui.
qui sont des vrais bons copains de la radio, ouais, ça c'est clair.
Ça veut dire que tu travailles toujours en radio, là, ce que tu viens de nous dire?
Non, ouais, j'y passe de temps en temps, effectivement, je vais encore dans les locaux que j'ai mis en place ici à Pau, hein, puisque quand je suis arrivé ici, c'était pour mettre en place donc Virgin à l'époque et RFM, surtout la partie sud-ouest, donc les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, et un peu les Landes. Donc je ne travaille plus en radio à proprement parler, mais j'y passe de temps à autre, j'y étais encore ce matin d'ailleurs. Mais pour d'autres raisons, maintenant je vais voir les copains aussi, les journalistes, et voilà. Mais ce matin, par exemple, j'ai passé 2 heures là-bas, il y avait une seule personne, c'était le journaliste d'Europe 2, quoi.
Ouais.
Pas de Virgin à l'époque, mais de Virgin maintenant. Une seule personne, quoi, voilà, c'est tout. C'est,
mais oui.
Voilà, il n'y a plus personne dans les radios, alors qu'il y a des locaux qui sont splendides, hein. Des locaux qu'on n'avait pas quand on était à Radio Marguerite, par exemple. Hein.
Mais t'es bavard, Pascal.
Ouais,
sur la radio.
Non, mon ami. Excuse-moi, mais c'est que je voulais rebondir sur ce que tu nous disais de ce fait de se retrouver seul, surtout. Et je pensais surtout, moi, de la charte, enfin, du côté aseptisé. Parce que j'ai un exemple, moi, de ce que parfois on peut appeler des malentendus, mais très, très mal entendus. À savoir que j'ai commencé, moi, pas ici, j'ai commencé en Vendée. Dans une radio dont le président s'occupe d'un grand festival, je sais pas, qui draine beaucoup de monde là-bas.
Bon, et
c'est ouais, peut-être, je sais plus. En tout cas, ce qui m'a amusé, c'est que, enfin, amuse maintenant, c'est quand on parle de la charte qui n'était pas dite, qui devait être entendue et comprise, que je l'avais mal comprise, visiblement, c'est qu'un jour je faisais bêtement une émission dans l'après-midi qui était plus ou moins sur les associations, et bien sûr on y met de la musique de temps en temps. L'époque voulait qu'on écoute beaucoup la salsa du démon. Je passe la salsa du démon.
Le splendide.
Je vois cette personne donc qui habite le bocage, qui est très agitée, et qui passe, qui enlève le disque, je vais te passer en direct bien sûr, qui enlève le disque, qui le casse sur le genou. Et ben, je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Il s'appelait Philippe, je crois. Pourquoi tu fais ça, Philippe? Mais il me dit, mais tu te rends pas compte? Ça parle du diable. Ah! Wow! Voilà. C'est une des raisons qui a fait, d'ailleurs, que je suis venu en Charente, je ne suis pas resté en Vendée.
Je crois qu'il est mort depuis, non?
Le diable?
Le diable.
Oui, je parlais du diable, bien sûr.
Mais bon, Pascal...
Aujourd'hui, il ne pourrait plus casser un disque, hein, parce qu'il n'y a plus un disque en radio.
Non, plus.
Oui, c'est clair.
Bonne réponse, Pascal.
Moi, je me rappelle encore, tiens, anecdote, alors une vraie anecdote, je me rappelle à l'époque... que les copains ont connu en arrivée à la radio avec sa pile de disques pour faire une émission. On avait sa pile de vinyles sous le bras pour aller faire son émission. T'as connu ça, Bernard, évidemment.
Voilà. Évidemment, j'habitais à côté, heureusement.
Et aujourd'hui, il y a même plus, il y a plus un CD, il y a plus. Alors évidemment, t'arrives avec un vinyle, tu passes pour un ancêtre, même si ça revient à la mode, hein. Effectivement, maintenant, les jeunes redécouvrent le vinyle et disent, ah, c'est génial. Oui, c'est génial. C'est sûr que, voilà. Et, aujourd'hui, le must, c'est d'acheter une platine vinyle et d'avoir un vinyle. Donc ça, c'est devenu, pour les jeunes, un truc vraiment top niveau. Donc ça fait assez rire. Et il n'y a plus, alors, les cassettes, il n'y a même plus d'appareils, il n'y a plus de disques, tout est numérisé. Donc il n'y a plus rien du tout dans un studio aujourd'hui. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est aussi
même
une autre facette, à mon avis, ça manque. Il y a un côté physique que je trouve dommage. Mais bon, voilà.
Mais dis-moi, Pascal, je voudrais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. En fait, c'est vrai, tu sais, moi, je travaille dans une radio qui s'appelle RDC sur Angoulême.
Ouais.
Et c'est vrai que la plupart des animatrices et animateurs qui travaillent là-bas, on fait nos émissions et rentrent chez nous.
Ah ouais, mais tu vois, c'était pas ça.
Il y a pas d'échange, il y a pas de, je veux dire, il y a pas un animateur qui va en venir voir un autre et puis qui va lui dire, par exemple, allez, je fais ton émission avec toi, ça va être génial et tout, machin. Eh ben, j'ai jamais vu ça depuis 4 ans que je travaille peu là-bas. J'ai jamais vu ça.
Plus dans l'air du temps, mais nous, enfin tous ceux qui sont autour de la table, qui ont connu les grandes heures de Radio Marguerite, pourront dire qu'effectivement, alors ça, par contre, c'était monnaie courante. Oui. On commençait une émission, il y avait du monde qui arrivait, des copains qui prenaient la parole, c'était parfois un peu le foutoir.
Il y avait, Pascal, tu te rappelles la séparation, on va le dire comme ça, il y avait donc une technique d'un côté avec un grand mur vitré, donc qui nous permettait de se parler, enfin de se voir comme un studio. Et effectivement, c'était, ça désemplissait pas, c'était un lieu de vie, Bernard, tu te rappelles, la façon dont on était à l'antenne. Et puis des fois, on voyait quelqu'un qui arrivait, qui disait coucou, je peux rentrer, bah oui, passe si tu veux. Même des fois, il venait dire un petit mot au micro, il venait chercher des disques derrière dans la réserve, enfin c'était des lieux de vie, les radios.
On avait une émission de punk rock New Wave à l'époque, qui était juste après une émission de poésie, Je vous aime. Donc le gars, l'animateur en question, trouvait ça, les musiques, alors il connaissait rien du tout, mais il trouvait ça assez intéressant, et une fois, il a pris un disque des Cures, il s'est mis à lire des poèmes sur un disque des Cures, parce qu'on avait passé les Cures après dans l'émission juste après. Génial, donc il y avait des échanges comme ça qui se faisaient.
Mais c'était super ça.
Évidemment, on amenait quantité d'alcool tout autour des tables, et plus aussi affinité, quoi, voilà.
Mais attention,
on va les retrouver le lendemain en rentrant. Je me souviens, il reste de weed sur la console.
C'est vrai qu'à l'époque, on pouvait fumer dans les lieux locaux, dans les lieux
publics.
Oui,
aussi, oui.
Donc c'est vrai que c'était.
C'était une autre époque, madame.
Alors, puisque tu parlais de RDC.
Mais c'est vrai, attention, moi je ne critique pas RDC, je ne juge pas mes collègues ni rien, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La seule chose, c'est que chacun fait son émission, puis chacun rentre chez lui.
Oui, c'est ça.
Et c'est bien dommage parce que moi qui a toujours eu l'habitude de travailler dans des radios où il y avait plein de monde autour de moi, et que j'étais aussi avec tout le monde, je veux dire, quand on arrive dans une radio comme ça, puis que finalement on fait son émission 19h, 21h, et qu'on rentre chez soi...
La plus belle exemple, c'est Bernard Lambert et moi-même, on s'est rencontrés par l'intermédiaire de la radio.
Voilà, ça c'est génial.
J'avais 19 ans, je me souviens, toi un petit peu plus, que t'es très vieux. C'est la radio qui nous a permis, et j'ai rencontré plein de gens.
C'est d'ailleurs lui qu'on appelle l'ancêtre. Voilà, c'est ça.
C'est ça cette odeur.
Pardon, parce qu'on parle les uns sur les autres. Je dois préciser aussi qu'il faut savoir qu'Éric et Bernard sont tous les deux des grands passionnés de bande dessinée également. Oui, ça aussi, vous dû vous rapprocher aussi.
Angoulême avec le festival, c'est vrai que ça a aidé. Et puis toi, Marc, c'est pareil, je t'ai rencontré à la radio. Enfin, le nombre, il a raison, Pascal, c'était des lieux de vie où on voyait plein de gens qui venaient tout le temps. Il y avait des téléphones. Alors à l'époque, il y avait des téléphones qui sonnaient constamment. Il y avait plusieurs lignes, vous rappelez. On était sollicités pour tout parce que les radios s'investissaient dans le tissu local. Rappelez-vous aussi, je me souviens de Europe 2 à la. Comment ça s'appelle, pas les commissaires agricoles, les
phonomanes. Mais oui, on faisait les foires.
Les foires, voilà.
Tu vois, avec Manu Da Silva samedi matin.
C'est ça.
Et comment c'était Nono, je crois. Hein.
Et il y avait des vedettes.
Des gens qui allaient en direct sur les foires, etc.
Il y avait Gérard Blanchard qui venait pour à Angoulême pour chanter le loup. Rocamadour.
On a bu des coups avec Étienne Dao et Alain Bachoum, s'il vous plaît.
Et Jean-Pierre Madère, monsieur.
Alors moi j'ai des références.
J'ai une anecdote d'ailleurs. Jean-Pierre Madère, j'ai fait une réflexion extrêmement désagréable parce que c'était pas ma tasse de thé. Et il était en interview, il a entendu le truc, il a dit « je veux qu'il sorte ». Et il y a eu une crispation parce que je n'ai pas voulu sortir du studio. Je lui ai dit « j'ai pas à sortir et je peux dire ce que je veux ». Et ce genre de truc où ça crée une certaine tension parce que c'était vraiment ça. On parlait de la liberté qu'il y avait à l'époque, mais on se permettait de dire des trucs. À l'heure actuelle, je reconnais qu'avec l'âge, c'est un petit peu ridicule. Mais bon, moi, Jean-Pierre Madère, Macumba, c'était pas mon kiff.
Oui,
donc,
Marc,
je me suis permis de le dire.
On n'arrive pas à
l'arrêter.
Hein.
Non, je suis pas vieux, moi.
Denis, je voulais juste faire mon ananère parce que je vous ai parlé de bande dessinée. Moi, j'ai eu un coup avec Roland Tepor et son magnifique rire.
Nananère.
Extraordinaire. Donc j'ai fait mon ananère, ça y est.
Jimmy, vous découvrez là cet univers. Hein. C'est plus comme ça la radio, hein, que ce soit Zai Zai ou Zigzag.
Avec
ou
les
ailleurs.
Vieux, ça se passe bien.
Avec les vieux. Moi, j'aime bien leur concours d'anecdotes.
On est vaccinés.
Je le découvre en même temps. Moi, j'ai beaucoup de récits via Bernard avec qui on travaille tous les jours.
Je vois, Jimmy, que tu as suivi quand même l'actualité. Tu fais un concours d'anecdotes aussi, toi.
Voilà.
Ah, oui, d'accord, ok.
Merci de rebondir.
Mais je t'en prie.
Bah non, ouais, un univers que nous on apprend un peu dans les livres d'histoire, hein, si on peut le dire. Et donc aujourd'hui, on fait de la radio, oui, bien différemment. Là aujourd'hui, Zaï Zaï, on est une web radio qui tente d'aller sur la FM. Donc on va ponctuellement en FM.
Ça marche en fait, c'est parti ce matin. Hein.
Et c'est parti ce matin. Ça y est, là on est à l'antenne sur le 101.1 et je crois que mes collègues sont encore un peu en train de transpirer parce qu'il y a 2-3 trucs à régler. Mais
moi, j'ai même monté sur un toit avant-hier soir.
Voilà, je pense que
à l'ancienne.
Bernard insuffle.
Zaï Zaï. Mais de Fab Caro par rapport à la BD de Fab Caro ou pas?
Ah, pour plein de raisons.
Oui, j'aimerais bien savoir.
La BD de Fab Caro, le lien à Angoulême, mais aussi garder un peu le ZZ de Zigzag.
D'accord.
Parce que Zaï Zaï, c'est un peu le Zigzag 2.0. Hein. On a gardé Bernard Lambert, mais on est passé sur le web. Et, et c'est lui qui nous dit, bah voilà, peut-être qu'on pourrait mettre une antenne sur le toit. Et puis on fait, ouais, on fait pas de la radio pareil, mais on garde cet état d'esprit. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que là, à vous écouter, à parler de tous ces moments de rencontre, je trouve que nous, on essaye en fait de recréer ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a les outils du web. D'ailleurs, on n'est pas tout le temps en FM et on peut pas en profiter pleinement aujourd'hui. Et en plus, on a ce côté très dématérialisé. Mais on est une radio mobile. Et donc, on va dans des bars, on va dans des lieux. Et c'est, ouais, notre principal truc, c'est cette rencontre.
Zigzag, parce que Zigzag Wrangle, non, c'est ça le truc?
Parce que j'ai pas entendu.
Zigzag Wrangle, c'était ça le diminutif?
Non, 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 c'était, alors c'était en 87, hein, c'était en FM, certains autour de cette table ont connu l'histoire, c'était une radio, on va dire, plutôt rock, quoi. Et on avait de l'auditoire, parce que, alors, anecdote, concours, le retour, à un moment donné, on avait un lien avec les Mazouins, qui était la salle de musiques actuelles qui se trouvait en dessous du théâtre, et évidemment, on avait des partenariats avec eux, on enregistrait des concerts de Stéphane Escher tout seul, bruitiste, carrément au cul de la console, et moi, j'ai le malheur de dire à l'antenne que le concert de ce soir au Mazouin est gratuit, donc voilà, je termine mon émission, et j'arrive au Mazouin, le concert n'était absolument pas gratuit, donc je me suis fait remonter les bretelles par Jean-Louis Ménanteau.
On est de la même génération.
Et donc voilà, le moyen de savoir si on a de l'auditoire, c'était ça, comme tu disais, c'est les gens qui viennent au studio, qui nous attendent, qui, avec qui on boit des coups.
Jean-Louis Ménanteau étant le directeur du Mazouin ou
à oui, l'époque. Qui a après monté voilà, la Nef ça. Et le festival également de musique, la Garden Nef. Oui, voilà, il y avait vraiment une relation particulière avec les auditeurs, quoi, c'est vrai. Bon, sans aucune nostalgie.
Nostalgie. Pour rebondir sur ce que dit Bernard, c'est vrai qu'à l'époque, on était identifiés, enfin, ils le savent tous autour de la table, on était à Radio Marguerite ou Europe 2, je prends notre exemple que je connais le mieux, mais on était très identifiés partout où on allait, on nous connaissait, voilà, on savait, les gens savaient qui on était. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que ça n'existe plus pour tout un tas de raisons, hein, que je peux peut-être pas identifier comme ça, mais il n'y a plus cette identification des gens et des structures, parce qu'il y a tellement de structures, il y a tellement de trucs, et aussi je pense que le premier fond du problème à mon sens, c'est que j'ai le sentiment que les jeunes écoutent de moins en moins la radio. Et ça, c'est le premier des problèmes.
On va laisser la place aux jeunes.
Ouais. La parole. On se pose la question. Nous, là, ça fait un an qu'on existe en tant que web radio. Oui, on n'est pas identifié. En même temps, parce qu'on démarre, mais aussi parce qu'il y a une multiplicité de l'offre qui est phénoménale. Ben voilà. On essaye de faire exister un flux comme si on était en FM. Et des fois, ça permet quand même à des plus ancien, d'identifier la radio comme un flux, et non pas comme quelque chose à la demande, on n'est pas en podcast.
Messieurs, il est 15h48 sur RCF Charente, nous sommes en l'antenne jusqu'à 16h, avant d'enchaîner avec la suite de ce programme consacré aux 40 ans des radios libres sur RCF Charente. Il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre au téléphone, en plus de Pascal Baudron.
Quel âge ?
C'est Bernard Beck, bonjour Bernard.
Salut.
Bernard Beck, que vous connaissez aussi sans doute, j'imagine, messieurs. Bernard Beck qui n'a pas pu être là présent, parce que vous êtes à Paris, hein, c'est ça, pour faire le marché pour votre prochain festival Polar à Cognac. Hein.
Eh oui.
Et donc, vous êtes un de ces anciens de la radio en Charente, notamment à Cognac.
Eh oui, c'était il y a bien longtemps, c'était dans les années 80-90, oui. Ouais, c'était une belle époque, lorsque Monsieur Mitterrand avait donné l'autorisation qu'on puisse parler dans la radio. Voilà.
Alors, avec nous autour de la table, il y a Bernard Lambert, il y a Marc Legras, il y a Eric Potel, il y a Thierry Dufresne. Je ne sais pas si ce sont des noms qui vous parlent. Au téléphone, il y a Pascal Baudron, c'est qui vous, un nom qui vous parle aussi, sans doute.
Oui, tout à fait.
Quelle a été la radio pour vous pendant ces années 80 à Cognac?
Bah, c'était une radio très proche du public. C'était aussi une radio d'information, c'était une radio un petit peu rentre-dedans, et puis c'était une radio qui musicalement pouvait faire découvrir des choses qui n'étaient pas très très connues, comme la world music, ça pouvait être de la new wave au niveau de la musique bien sûr, et puis moi je pense aussi à tout ce qu'on faisait avec le petit Ramoneur, le café-théâtre dirigé par Marion, par René, et ça donnait des ITV extraordinaires avec des gens qui nous venaient de Los Angeles. Ça a été aussi la période du festival du film policier avec je sais pas, tous les gens qui sont passés. Donc voilà, c'était ça la radio à l'époque, 80, 90. Et puis, c'était aussi l'écoute des gens, c'est-à-dire que bah, ceux qui sont autour de votre table doivent se souvenir des petits appels téléphoniques qu'on recevait. Tiens, il y a une manif, parce que faut pas oublier que cette période-là avait été très difficile pour les viticulteurs, voilà. Et moi, je me souviens d'avoir été, comment on appelle, pas kidnappé, mais presque, c'est-à-dire le studio envahi par beaucoup de viticulteurs qui réclamaient des choses. Oui, c'était des moments très forts, ouais, de partage et puis surtout de liberté complète, quoi.
C'est ce qu'un peu disaient nos collègues, vos collègues tout à l'heure, hein, sur cette importance de la radio qui a été un peu perdue aujourd'hui, hein, faut le dire.
Je sais pas si elle a été perdue, je sais pas comment dire, mais personnes qui...
Non, il y a un problème.
Allô?
Oui, il y a un problème de liaison, là. On commence à vous perdre, Bernard.
C'est comme nous, aïe,
aïe, aïe. Voilà ce que c'est, j'aurais dû venir. Bon, je ne sais pas si vous m'entendez.
Non, il va falloir appeler Jacques Pradel.
Non, je crois que là, ça marche. Merci Bernard Beck. De toute façon, je crois que vous êtes très occupé là, aujourd'hui à Paris.
Ouais.
On se retrouvera prochainement pour le festival de Polar.
Oui, c'est en octobre du 15 au 10.
Ouais, bah ouais, ça c'est passé. C'est passé à partir du 15 octobre. Merci beaucoup, ouais, Bernard okay. Beck, pour ce clin d'œil. Au revoir.
Parce que vous êtes à Paris, je vous conseille l'écoute de Carbone 14.
Non mais ça y est, il est déjà parti. Il nous reste pas longtemps hein, quand même pour parler encore de ces souvenirs de radio, de cette importance de la radio libre dans les années 80, puis de la radio moins libre dans les années 80 et de la radio aujourd'hui... qui quand même permet de donner la parole, qui permet de parler du territoire, qui permet de faire parler ceux qui n'ont pas la parole. C'est un peu comme ça que vous voyez toujours ce média les uns les autres, Bernard Lambert.
Oui, en fait, si on a remonté Zigzag Web Radio d'abord, devenu maintenant Zai, c'est aussi pour ça. On est une radio de flux essentiellement musical. Il y a les gens de la Nef, il y a les gens de musique métisse et d'autres qui programment. Donc on a des esthétiques musicales qu'on retrouve pas sur la Bonne FM, mais pas seulement, et là je vais laisser la parole à Jimmy, sur le fait de donner la parole aux gens qui ne l'ont pas forcément.
Oui, en disant que peut-être que la nouvelle liberté aujourd'hui, c'est le web. Alors c'est une liberté qui certes fait qu'on explose les compteurs en termes de nombre de contenus et que maintenant, il faut s'adresser à une communauté. Mais nous, on essaye de construire peut-être quelque chose de très utopiste, c'est qu'en utilisant le web, on essaye de créer une communauté qui est plutôt la communauté des habitants de la Charente en mode radio locale habituel. Et donc, oui, on essaye de mettre les Charentais, même les Néo-Aquitains, dans le poste, quoi. Après, le poste, c'est un poste numérique, c'est un poste podcast. Mais heureusement, ils s'écoutent sur les téléphones portables, ils s'écoutent sur Internet. Ils nous demandent de se réécouter. Hein, donc, on essaye de créer ce contenu-là. Et moi, quand je vous entends parler de ces lieux de rencontre, de ces moments de rencontre, Et c'est bien, ça me conforte dans l'idée qu'aujourd'hui on va continuer, parce que en fait le son il nous sert à ça, il nous sert à être un outil pour se rencontrer, puis des fois pour des gens pour se trouver aussi, enfin en tout cas voilà, c'est ça reste un chouette moyen de rencontrer des gens, et puis le territoire, la Charente est belle en plus.
C'est ça, voilà. Et que ce soit la web radio, que ce soit une radio locale normale, c'est un chouette et un super chouette média, génial.
Il y a peut-être un truc qu'on a oublié tous un peu autour, les plus anciens j'entends, autour de cette table, comme vous me faisiez penser en parlant, c'était la politisation quand même. Pascal y a fait une allusion, Pascal Bourdon y a fait une allusion, mais Bernard Lambert, vous avez parlé de Radio Renaissance. On avait ici à faire ce qu'on appelle à l'époque une radio de droite. Europe 2 se situait plutôt dans une mouvance, on va dire, un peu socialocentriste, etc. Et ça a un peu disparu aussi, vous écoutez. On a plus des cibles, on a plus des gens qui vont se retrouver par tribu, par communauté, par musique, par choix, par goût culturel, mais moins par... Alors, ça peut arriver, hein, il peut y avoir des radios, on va l'entendre, qui sont plutôt politisées, mais à l'époque, dans les années 80, on avait quand même une politique française qui était partagée en deux, avec des gens de gauche qui avaient pris la revanche sur 30 ans de droite, hein, c'est clair. En 80, c'est quand même la revanche du peuple de gauche, oui, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, et donc il y a effectivement, on est identifié aussi politiquement. Alors qu'à l'heure actuelle, ça me semble beaucoup plus mou, enfin un peu plus mou. Je vous écoutais, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un contenu forcément politique.
Le contenu politique, il est dans l'acte de faire de la radio, moi, je pense. Il n'y a pas de contenu politique au sens de... Après, là, les camarades qui font plein de web radios ou qui font des radios, même encore un peu podcast, qui des fois se retrouvent sur des radios campus aussi, enfin, ils ne font pas forcément des émissions politiques. Mais je pense qu'il y a quelque chose de politique dans le son.
Je voulais pas dire qu'on faisait des émissions politiques. Moi, j'ai jamais fait aucune émission politique. À part en tant que journaliste, on avait des invités politiques. Et voilà. Mais on faisait pas de politique au sens, voilà. Mais je pense à Marc Legras ou Bernard Lambert qui étaient avec moi, par exemple, à Europe 2 à cette époque-là, ou à Radio Marguerite. Il y avait des tonalités, on va dire, politiques quand même, Marc, non?
Si. Pardon. Je suis désolé. Et je voudrais justement aussi reparler de ça parce que on parle de radio là, mais on parle énormément musique. Bien sûr que je ne suis pas contre la musique. Mais ce que je veux dire, c'est que la radio n'était pas que la musique non plus. C'était pas juste un flux musical. Il y avait aussi beaucoup d'émissions de réflexion avec des invités qui parlaient. C'est-à-dire, c'était aussi... Moi, je ne suis plus bavard parce que j'ai plus la voix. J'ai une corde vocale en moins pour tout vous expliquer.
D'accord.
Mais néanmoins, j'adore écouter, moi... Quand on me raconte des histoires, par exemple. Vous voyez? Alors, des vrais témoignages ou des mises en onde d'œuvres littéraires ou des choses comme ça. Mais ça aussi, c'était un travail très important qui se faisait et qui était très, très agréable à faire, de faire soi-même son montage, c'est-à-dire pas seulement sur les bandes magnétiques, d'abord dans sa tête, ensuite à l'écrit, ensuite diffusé en direct à la radio, ça c'était encore un autre travail, mais et qui abordait cet échange avec l'auditeur sur lequel je reviens, puisqu'on avait aussi des invités qui donnaient leur avis en studio ou par téléphone.
Ah, tout à fait.
On va peut-être s'arrêter là, messieurs, il va être 16h.
Déjà ?
Ce que j'ai oublié de dire, c'est que, et peut-être que vous ne le saviez pas, mais cette émission qu'on vient de faire aujourd'hui était diffusée sur RCF Charente, évidemment nous sommes en direct, mais elle était diffusée aussi sur Radio RDC, et elle était diffusée sur Radio Attitude, qui sont partenaires avec nous de cette semaine spéciale fête de la radio.
Super.
Pour les 40 ans de la libération des ondes. Avec nous aujourd'hui...
Vous me la baillez belle, hein.
Avec nous aujourd'hui, il y avait Pascal Baudron depuis Pau. Merci Pascal.
Merci à vous tous et j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger ces quelques mots avec mes anciens camarades. Vraiment un vrai plaisir.
Merci Pascal. Merci Pascal, nous aussi.
Merci Pascal, au revoir. Avec nous également.
À dans 40 ans, oui.
Thierry Defresne, qu'on vient d'entendre.
Oui.
Merci beaucoup d'être venu jusque-là.
Mais merci Denis de m'avoir invité.
De rien.
Merci de ton invitation.
Merci Eric Botel. On vous retrouve bientôt sur les antennes d'RCF. De toute façon, vous êtes dans la maison.
C'est ça, et gratuitement.
Non. Ah, ça c'est fini ça.
Merci Marc Legras. Merci Jean, merci Bernard Lambert.
Oui, merci à toi. Voilà.
Et puis merci Jimmy.
Ben merci.
On vous retrouve Bernard Lambert ce soir sur votre fréquence FM à partir de 18h30, je crois, à Villebois-Lavalette pour une émission spéciale avec littérature métisse, c'est ça?
C'est exactement ça, c'est sur le 101.1 en FM.
On est content. En FM, bien sûr.
Tu dis?
Je ne capte pas depuis peu.
Mais tu as un ordinateur, malgré ton âge avancé.
Oui.
Mets tes lunettes.
Bien. Merci beaucoup à tous. Dans un instant, comme chaque soir sur RCF Charente, à partir de 16h, dans ce rendez-vous spécial, un journaliste est avec nous, mais c'est un photographe de presse, et Quentin Petit, nous l'entendrons. L'idée pour nous ce soir, c'est de parler de l'image qui donne à voir tout autant que la radio, sans la parole, pour l'image, et sans l'image pour la radio. Enfin bref, on va essayer d'échanger là-dessus avec Quentin. Ensuite, vous retrouverez l'épisode radio Raconte-moi ton histoire, proposé par le CTA de Bordeaux, une série en 5 épisodes que vous avez pu suivre toute cette semaine sur l'antenne d'RCF Charente et sur Radio Attitude comme sur Radio RDC. Il est 16h.